9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain, des grèves à nouveau et enfin dévoilées mercredi les concessions du gouvernement pour tenter de faire passer la réforme sociale sans doute la plus profonde depuis 70 ans. Dans cette arrivée demain, pas de spéculation sur l'issue du conflit mais des arguments pour ou contre le changement de notre système de retraite avec Henri Sterdignac, économiste atterré et naturellement atterré par le projet en cours et Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. Après cela, j'accueillerai une jeune artiste très loin de la retraite. Elle se fait appeler Pomme, elle a 23 ans, publie son deuxième album et elle a beaucoup de talent.
Je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir des failles.
Pomme qu'on retrouvera après notre débat sur les retraites.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Olivier Babeau. Agrégé d'économie, professeur à l'université de Bordeaux, président fondateur de l'Institut Sapiens, économiste libéral, qui fait face
disons-le.
À un économiste atterré. Bonjour Henri Sterdignac.
Bonjour.
Adversaire dès l'origine d'un système prétendument universel. Il y a 10 ans déjà, vous dénonciez les apprentis sorciers de la retraite à points, c'est-à-dire la CFDT, le Parti Socialiste qu'il avait inscrit dans son programme et les économistes qui les avaient inspirés, Bozio et Piketty. En quelques phrases, qu'est-ce qui fonde votre opposition ?
La retraite, selon moi, ça doit être un système à prestations garanties, c'est-à-dire un système où on garantit aux salariés et aux retraités d'avoir un certain niveau de retraite et que ce niveau de retraite, ça correspond grosso modo au fait que les retraités doivent avoir le même niveau de vie que les actifs. Tandis que lorsqu'on met en place un système par points, la grande idée, comme le disait François Fillon, c'est que on peut toujours ajuster le système en baissant la valeur du point et donc du coup, il n'y a plus aucune garantie pour les salariés et les retraités quant au niveau de leur retraite.
C'est l'idée d'ajustement budgétaire automatique, c'est-à-dire que c'est le volume des cotisations qui détermine montant des prestations, des pensions.
Voilà, qui détermine de façon rigide. Et donc, en l'occurrence, la grande idée, c'est de dire le nombre de retraités va augmenter d'environ 25% par rapport à celui des actifs. Et on va baisser le niveau de vie des retraités relatif à celui des actifs d'environ 20%. Et bien sûr, c'est le sens du projet. Et le problème, c'est que les gens s'en aperçoivent et que du coup, ça passe pas.
Olivier Babeau, sur ce principe.
Moi, je suis très étonné par les débats qui ont lieu à la faveur de cette réforme, parce qu'ils sont très, très souvent surréalistes et j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de traverser le mur de la réalité. Malheureusement, c'est toujours un peu difficile. On a voulu le système par répartition, on l'a. Le système par répartition, c'est une boîte fermée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un instant T, vous avez des pensionnés qui touchent ce que versent au même moment des gens qui travaillent et des gens qui vont cotiser. C'est donc un système fermé. S'il y a un décalage entre les deux, ça veut dire que ça va être payé sous des formes de déficit, et en réalité ça revient à faire ce que j'appelle la clause du petit-fils, c'est-à-dire en fait à faire payer plus tard les générations futures. En réalité, on confond, de mon avis, deux sortes de solidarité. La première solidarité, c'est une solidarité avec soi-même plus âgé. À l'origine, c'est ça. C'est l'État prenant en compte le fait que vos préférences intertemporelles, comme disent les économistes, ne sont pas suffisamment rationnelles, c'est-à-dire que vous allez essayer de dépenser tout de suite ce que vous auriez eu besoin de dépenser plus tard, va vous obliger à mettre de côté, en fait. Vous allez vous obliger à être un écureuil qui va mettre des petites noisettes de côté. Et puis, vous avez un deuxième système de solidarité, qui est ce système qu'on appellerait beaucoup plus beveridgien, évidemment. C'est le système de Beveridge que comprennent les économistes. Je ne veux pas être trop technique. En tout cas,
oui,
un système
parce que là, vous
de solidarité.
Une toute petite fraction de nos auditeurs.
C'est pour ça que je traduis tout de suite. Je traduis pour dire qu'il y a un concept derrière, mais l'idée, c'est que vous avez un système de solidarité minimale, l'idée de filet, en fait, qui dit qu'on ne peut pas descendre en dessous de certains niveaux. Et là, vous avez une solidarité qui va se nouer entre les personnes. Mais c'est d'abord une solidarité entre les gens. Et le mur de la réalité, il est tout simple. 1964, 4 cotisants pour un pensionné. Aujourd'hui, 1,7 cotisants pour un pensionné. 1,5 en 2040. Et à terme, 1. À partir du moment où l'argent ne vient pas d'ailleurs. Parce que les gens qui disent, il faut que l'État mette de l'argent. Mais l'État, il ne peut pas mettre de l'argent parce que l'État, ça n'est rien d'autre que nous. J'ai toujours l'impression de cette idée, vous savez, de Bastiat, qui est que l'État, c'est cette grande fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Dans les débats sur la retraite, c'est incroyable comme les gens ont l'air de dire, mais allez, c'est mon droit, il faut que les gens payent pour moi, en fait. Mais non, en fait, à un moment donné, la logique, c'est quand même que vous n'aurez que ce que vous avez cotisé. Si on vit beaucoup plus longtemps, eh bien, il va falloir qu'on travaille plus longtemps, ou alors qu'on cotise plus, ou qu'on ait moins. Malheureusement, on ne peut pas sortir de ça.
Henri Sterdignac.
D'abord, je rassure tout le monde, nous n'aurons jamais un actif pour un cotisant, pour des raisons simplement démographiques, hein, puisque les retraités, c'est grosso modo les gens de plus, ça va être les gens de plus de 64 ans, ça fait grosso modo 20 tranches d'âge, contre environ 43 tranches d'âge qui travaillent, et qui travaillent de plus en plus, puisqu'on a une hausse importante, tendanciellement, du travail des femmes. Ensuite, la retraite, c'est pas l'État, c'est avant tout, c'est un mécanisme salarial, ça a été mis en place en grande partie par les partenaires sociaux, et c'est géré encore par les partenaires sociaux, et les partenaires sociaux qui prennent leurs responsabilités sont tout à fait capables de dire, si nécessaire, effectivement, on peut faire les bons arbitrages, on peut décider d'augmenter les taux de cotisation, ce qui est effectivement nécessaire, on a un choix social à faire. Jusqu'à présent, on a fait le choix d'avoir des actifs et des retraités qui ont à peu près le même niveau de vie. Là, le gouvernement impose d'avoir des retraités qui auront un niveau de vie beaucoup plus bas que les actifs. C'est quand même c'est un choix social. On peut en discuter. On peut discuter aussi de l'âge de départ à la retraite. Là aussi, il faut tenir compte des réalités. Et donc, le problème, c'est que le gouvernement, les technocrates imposent une réforme, pensez à Bercy ou pensez au ministère de la Santé, qui correspond pas aux compromis sociaux qui ont été élaborés au cours du temps. Et on ne peut pas brutalement modifier complètement ces compromis sociaux, dire aux enseignants, finalement, vous aurez une retraite qui sera plus basse de 26%. Tout ça, c'est pas gérable.
Mais vous admettez, Henri Sterdignac, qu'il faut faire évoluer ces compromis à cause des changements démographiques. C'est ça, je vous ai bien entendu.
Le principe même de la retraite par répartition, c'est une assurance sociale et salariale. C'est-à-dire que, naturellement, c'est quelque chose qui se gère, normalement, période après période. C'est-à-dire, comme on l'a toujours fait, le système, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le système est en équilibre, il n'est pas déficitaire. On a un système qui est équilibré. Le problème, c'est que le gouvernement dit, on va faire des grandes réformes pour un déficit qui est imaginaire, puisqu'actuellement, le système est équilibré, qu'actuellement, on a une prévision du corps qui nous montre que le système peut continuer à fonctionner en étant géré de manière souple. Le problème, là, c'est qu'on impose brutalement une réforme où on dit brutalement aux gens, d'un côté, vous perdrez 25% de votre retraite, et de l'autre, vous travaillerez brutalement 2 années de plus.
Olivier Babeau, vous répondez dans un peu plus d'une minute après une courte pause, on poursuit ce débat avec Henri Sterdignac.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
On débat de la réforme des retraites et Olivier Babeau, vous répondez à Henri Sterdignac qui vous disait qu'on a aujourd'hui un système qui fonctionne, qui est à peu près équilibré, géré par des partenaires sociaux libres de faire des arbitrages en fonction des évolutions démographiques. Pourquoi le changer ?
Sur la critique de la technocratie, déjà, Henri Sterdignac me trouvera toujours à ses côtés, comme je l'ai souvent souligné. Évidemment, je suis content que de temps en temps, on puisse reconnaître que la personne publique n'est pas une personne parfaite, extraordinairement rationnelle et occupée seulement de son intérêt, mais avec ses défauts, malheureusement, comme tout être humain. Je suis content aussi qu'il reconnaisse que, en réalité, c'est toujours comme à ça qu'on arrive, quand on arrive dans un débat à la fin, c'est « Ah oui, mais on va faire payer les entreprises. » Bon, c'est-à-dire on va augmenter les cotisations. Et c'est cette grande fiction qu'il y a une différence entre la part salariale et la part patronale, alors qu'en fait, en réalité, le patron, si vous l'avez été un jour, vous le savez, il regarde en fait le coût total de l'employé, et puis il va adapter évidemment ses embauches en fonction de sa productivité, puis l'employé, évidemment, il regarde ce qui lui reste à la fin du mois, on pourrait dire en net-net, c'est-à-dire après l'impôt sur le revenu. C'est la seule chose qui compte. C'est d'un côté le coût total, de l'autre côté, tout le reste, ce sont des espèces de distinctions byzantines que seule l'administration peut avoir
J'ai jamais parlé de cotisations employeurs.
Il faut cotiser plus.
Non mais très bien.
Donc c'est pas du tout une question de cotisation. C'est pas une question de cotisation employeur. Il faut cotiser plus.
voyez qu'il y avait trois solutions, on n'en sort jamais. Puis la quatrième avec le déficit, mais trois solutions, on cotise plus, on cotise plus longtemps ou on a moins à la fin. Donc la plupart des gens disent, bon, il faut cotiser plus. Donc en fait, c'est aux actuels, aux jeunes qui travaillent, aux gens qui travaillent, il va falloir participer plus pour, on pourrait dire, une recette à la fin qui n'est pas certainement, qui est pas certaine, parce que contrairement à ce que tu dis, les prévisions du corps, elles montrent que le système ne peut pas fonctionner si on ne fait pas évoluer les paramètres. Et c'est peut-être, depuis le début, un des... Je ne sais pas si c'est un mensonge du gouvernement, mais un des non-dits. On nous a dit on va faire une réforme structurelle. Alors que, évidemment que c'était une réforme paramétrique. Évidemment qu'il y allait des paramètres, avoir des paramètres qui allaient changer. Maintenant, le système de cette retraite par points, il a un deuxième défaut. C'est qu'on nous avait annoncé depuis le début, ça va être extrêmement simple. Ça va être d'une simplicité biblique. Il va y avoir un euro cotisé, va donner le même point pour tout le monde.
Là, c'est un peu raté déjà.
Mais oui, mais alors, c'est pas possible. Parce que si vous prenez en compte la pénibilité, on est tous d'accord qu'il faut la prendre en compte. Si vous prenez en compte le fait d'avoir eu des enfants, si justement vous essayez de réparer tous ces défauts liés à des carrières qui peuvent avoir été hachées, spécialement pour les femmes, etc. Évidemment, vous n'avez plus cette règle extrêmement simple. Et bien, finalement, à partir de ce moment-là, le verre est dans le fruit des retraites, puisque vous allez devoir jouer sur énormément de paramètres pour pouvoir transvaser certaines cotisations d'un côté vers l'autre. Et c'est ça les débats aujourd'hui. Et
oui, le problème...
Non, simplement, juste pour préciser, sur le choix des paramètres, vous, ce que vous préférez, Henri Sterdyniak, c'est qu'on touche le taux de cotisation. C'est qu'on... Plutôt que d'inciter les gens à travailler plus ou à les obliger à travailler davantage, vous préférez qu'on bouge le curseur des cotisations ?
Dans la mesure où on vit plus longtemps et dans la mesure où nous choisissons collectivement de dire il faut une période de retraite heureuse qui permette aux gens de s'investir pour leurs petits-enfants, pour des activités culturelles, pour des activités associatives, oui, bien sûr, il va falloir... augmenter les cotisations. On a fait le calcul. Hein. Pour maintenir le système tel qu'il est, il faut augmenter chaque année les cotisations de 0,2 points. Ensuite, on dit aux jeunes tout à fait clairement, vous payez un peu plus, vous paierez durant votre carrière un peu plus, mais en contrepartie, on vous garantit que vous aurez une retraite et que cette retraite, elle vous garantira un niveau de vie satisfaisant. Donc les jeunes, ils ne sont pas victimes du truc, puisque c'est une garantie qu'on leur donne qu'effectivement, ils auront une retraite satisfaisante. Et il y a eu un certain nombre de... La retraite, d'un côté, effectivement, c'est contributif, c'est-à-dire qu'on reçoit en fonction de ses cotisations, mais c'est aussi redistributif, puisqu'on... Il y a des tas de mécanismes redistributifs. On tient compte, on essaye de ne pas tenir compte des périodes de chômage, de maladie. C'est également rétributif, puisqu'on récompense les gens qui ont une carrière satisfaisante. Et on récompense aussi, jusqu'à présent, les femmes, parce que c'est les femmes qui s'occupent plus des enfants. Et tous ces compromis, on ne peut pas... Et en plus, dans le système tel qu'il est, la retraite, c'est un placement qui est plus avantageux pour les bas salaires que pour les hauts salaires parce qu'il y a des mécanismes comme le minimum contributif, etc. Et on ne peut pas brutalement, parce qu'un candidat a lu un livre, dire brutalement ben « on va tout changer avec une règle, un euro cotisé doit donner les mêmes droits ». Ce n'est pas possible. Il ne faut pas dire l'idée qu'un système social peut être bouleversé du jour au lendemain parce que le candidat a lu un livre. Non, ce n'est pas possible.
Et tout cela fait le meilleur système au monde. Ça, c'est ce que dit Philippe Martinez, le leader de la CGT. Il est en tout cas le plus généreux, ça. Les comparaisons internationales le disent. La question est de savoir, c'est est-ce qu'il est soutenable ? Oui, répond Henri Sterdyniak, moyennant... quelques modifications paramétriques. Oui, on peut garder ce système-là. Olivier Babeau, vous en pensez quoi ?
Il est soutenable comme l'est une pyramide de Ponzi, hein, parce que ça revient exactement au même principe. Alors, il y a une question qui n'est pas mise en avant par le gouvernement.
Je précise une escroquerie à grande échelle. Hein,
enfin, c'est un système où la rentabilité inhabituelle, on pourrait dire, d'un placement est permise par l'arrivée des gens et non pas par la productivité du placement. Par l'arrivée des gens en permanence qui eux-mêmes comptent sur le fait qu'il y aura d'autres gens qui seront arrivés pour leur donner. Mais en général, il y a des gens à la fin qui finissent par en pâtir. Il y a une question qui n'est pas mise en avant par le gouvernement. Il y a un chiffre sur lequel on ne communique pas beaucoup. C'est l'idée de taux de rendement interne. C'est-à-dire, est-ce que vous allez revoir votre argent, en gros ? On nous a expliqué que 100 euros de cotisation vont donner 5,5 euros par an de pension. Ouais. Ça veut dire qu'il va vous falloir, si on fait un rapide calcul, un peu plus de 18 ans, 18,1 années, n'est-ce pas, pour revoir en partie son argent. La moyenne de vie À la retraite, c'est une vingtaine d'années aujourd'hui, ça va probablement changer. Et puis il y a des grosses inégalités, on sait que les ouvriers vivent moins longtemps, que les cadres vivent plus longtemps, etc. Que les femmes en revanche vivent plus longtemps.
Mais c'est plutôt un bon rendement, non? C'est un rendement meilleur que la plupart des placements financiers.
Jusqu'à présent, ça a été un très beau rendement, c'est-à-dire c'est les chiffres qui sont annoncés. Autrefois, c'était un rendement de 400%. Hein. On a eu des moments où les gens, effectivement, avaient beaucoup, beaucoup plus. C'est comme s'ils avaient placé avec un super rendement. Aujourd'hui, de plus en plus, on sait que les projections, ça va être vers le fait qu'aujourd'hui, vous allez à peine revoir les gens qui vont partir à la retraite maintenant, ils vont à peine revoir leur argent, parce que forcément, on va adapter les paramètres, puisque le système est fermé. C'est une boîte fermée et on dit, la règle d'or, c'est l'équilibre. Si la règle d'or, c'est l'équilibre et que vous avez la démographie qui évolue, au bout d'un moment, si, on va pas changer, si les gens ne travaillent pas plus, ou si le chômage ne diminue pas de façon massive, extrêmement rapide, qui fait plus de cotisants, évidemment, ça change l'équilibre du système, et ben en fait, cette rentabilité, elle va être négative. C'est-à-dire, qu'il aurait mieux valu qu'ils mettent l'argent sous leur matelas. Mais bien sûr que si.
Olivier, tu es économiste.
Tu sais
qu'on a démontré que la rentabilité de la retraite par répartition, c'est obligatoirement égal au taux de croissance de la productivité du travail plus le taux de croissance de la durée relative de la retraite.
Oh là là.
Ce qui veut dire que, grosso modo, la rentabilité du placement retraite actuellement, compte tenu, même s'il y a une croissance de la productivité du travail de 1% par an, c'est aujourd'hui de 1,5% par an en termes réels.
À condition alors qu'il y ait ses croissances. Et c'est pas
vrai. Alors qu'aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver un placement sûr qui vous rapporte 1,5% par an. Voilà pourquoi.
Et non, les études ont montré que les retraites par capitalisation, en revanche, marchent très très bien. Elles ont une productivité qui est bien plus intéressante.
Henri Sterdyniak, Olivier Babeau, je vous arrête.
Non, c'est pas un placement intéressant.
Une seconde, parce que la rentabilité d'Europe 1, elle dépend du passage des écrans publicitaires. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
C'est arrivé demain, se poursuit avec vous Patrick Cohen.
Avec notre débat sur la réforme des retraites, Henri Sterdyniak, Olivier Babeau, dans le discours du gouvernement, il y a l'idée de justice et d'équité, il y a aussi la volonté de mettre fin aux régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP et de la SNCF, même si Édouard Philippe a dit il y a deux jours à l'intention des salariés de ces deux entreprises, il ne serait pas juste de changer ces règles en cours de partie alors qu'un contrat a été signé en toute bonne foi, avec des choix faits en fonction de ce régime. Olivier Babeau, les régimes spéciaux, leur suppression, c'est important ou c'est symbolique?
Je pense que c'est symboliquement important.
Oui.
Pour une raison très très simple, vous savez, on pense à la ferme des animaux d'Orwell, hein, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, c'est un peu l'impression qu'on a avec des régimes spéciaux, 7,5 milliards de coûts pour la collectivité, de régimes qui sont très très différents. Alors une des réponses est de dire, mais alignons tout le monde par le haut, et on sait très bien que ça n'est pas possible. C'est tout à fait vrai que changer le contrat en cours de route pose un problème. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, au tout départ, vous avez une sorte de contrat où ça vous savez, vous allez avoir les retraites, des conditions de travail, et puis vous acceptez ça. Et après, c'est un changement important. Donc la question de la transition, elle est très importante. Ça, c'est évident. Elle est importante aussi pour les enseignants, parce que les enseignants ont un vrai problème de retraite, on le sait, puisque eux n'ont pas, vous savez, ils cotisaient jusque-là sur les 6 derniers mois, mais ils avaient très très peu de primes, contrairement à d'autres fonctionnaires qui ont des primes qui font que la prise en compte de la totalité de leur retraite va leur donner une retraite qui ne baissera pas trop ou qui ne baissera pas. Pour les enseignants, il y a aussi un autre problème, mais cette question des régimes spéciaux, elle est centrale. Qui peut accepter parmi le régime général cette réforme qui est très profonde, qui va changer beaucoup de choses, si elle n'est pas du même coup une vraie mise à égalité symbolique?
C'est aussi ce qu'a dit Édouard Philippe. Je ne crois pas que les Français puissent accepter que des Français continuent de partir avec un peu plus et surtout beaucoup plus tôt. Henri Sterdyniak.
D'abord, c'est évidemment purement symbolique, ça concerne plus que 300 000 personnes. On parle de 8 milliards, mais en fait, grande partie de ces milliards, ça correspond à des déficits démographiques. En particulier, dans ces 8 milliards, il y a le déficit du régime des mines. Il n'y a plus de mineurs, mais bien sûr, il faut continuer à verser aux mineurs et surtout aux veuves de mineurs. C'est pareil pour les marins, c'est pareil pour la SNCF, la RATP, qui ont des ratios démographiques très dégradés.
Mais c'est donc, la moitié du déficit prévu par le corps
Quand on fait le total, il ne reste plus que 2 milliards que l'on pourrait éventuellement récupérer. Et comme l'a dit Olivier, ce problème est tout à fait secondaire sur le plan financier par rapport à celui beaucoup plus grave des enseignants, des infirmières, des aides-soignantes, où là, Bon, on est dans des sommes de l'ordre de 25 milliards si effectivement on voulait tenir la vague promesse de, d'Édouard Philippe disant ben, on va compenser par des hausses de salaire la baisse de retraite. C'est beaucoup plus important. Par ailleurs, dans ces métiers, dans ces trois entreprises, il y a des travaux pénibles qu'on ne peut pas faire après un certain âge. Et de toute façon, il faudra à un moment donné une grande réforme des travaux pénibles, lorsque un métier ne peut pas être fait après 50, 55, 60 ans, il faut des dispositifs. Soit on met les gens à la retraite plus tôt, soit il faut que dans le cadre de l'entreprise, on fasse évoluer les gens. Et ce n'est pas seulement un problème SNCF, puisqu'on a mis sur pied déjà un dispositif pour les routiers. Les routiers peuvent partir à 57 ans parce qu'il y a une caisse spéciale pour les routiers. Et donc, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il sorte par le haut, je suis désolé, en disant, ben voilà, on va faire une grande négociation, branche par branche. Il faut que dans chaque branche, on définit les postes pénibles. Certains postes sont pénibles, les postes ne sont pas équivalents. Oui. Conducteur de bus dans le 93, ce n'est pas totalement équivalent à conducteur de bus en Bretagne.
Non, en Bretagne, ils partent 10 ans après ceux du 93.
Oui, mais ce n'est pas le même métier. Donc, on attend une sortie vers le haut, c'est-à-dire qu'on renégocie effectivement l'ensemble des professions pénibles. Aide-soignante, c'est pénible parce qu'il faut soulever des gens qui sont souvent plus lourds que... Voilà, on attend ça.
Mais cheminot, par exemple, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des dizaines de métiers différents à la SNCF.
Il faut savoir qu'actuellement à la SNCF, il y a trois statuts et que vous ne partez pas au même âge selon que vous êtes conducteur, ce qui vous oblige à ne pas coucher chez vous tous les jours et à travailler le week-end, ou selon que vous êtes dans les bureaux. Ça existe déjà. Ça existe déjà, les trois statuts. Et ça doit être généralisé. Et pour les fonctionnaires, c'est pareil. Le gardien de prison, c'est pas le même statut, c'est pas la même condition de travail que conseiller maître à la Cour des comptes.
On marque une dernière pause avant de finir, de terminer ce débat tout de suite.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1, votre dimanche continue avec Patrick Cohen et c'est arrivé demain sur Europe 1.
Dernière partie de notre débat avec Henri Sterdignac, économiste atterré, Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, sur les concessions, aménagements, spécificités reconnues que le gouvernement devrait annoncer ou confirmer mercredi pour tenter de faire rentrer le dentifrice dans le tube, si c'est encore possible. Est-ce qu'à vos yeux, Henri Sterdignac, ça pourrait rendre la réforme acceptable? On a évoqué quelques pistes tout à l'heure. Et à l'inverse, Olivier Babeau, est-ce que ça dénaturerait à vos yeux la pureté originelle de cette réforme pour un système à points? Henri Sterdignac.
D'abord, il y a une piste qu'il faut écarter. Hein, c'est l'idée selon laquelle on dirait aux gens ça ne s'applique pas à vous, ça s'appliquerait qu'à vos enfants, ce qui serait la solution la plus égoïste, puisqu'on demanderait aux gens de ne pas se soucier de leurs enfants, ce qui n'est pas acceptable.
Oui, puis on n'a jamais vu une réforme qui est prévue pour s'appliquer dans 40 ans.
Oui, mais enfin, on l'a vu en Italie, finalement, la réforme ne s'applique pas. Quoi. Donc c'est pas génial. Bon, il faut que le gouvernement, au mieux, donne un certain nombre d'engagements. Les engagements, il ne faut pas que le point puisse varier n'importe comment. Donc, on s'attend au minimum à ce qu'ils disent la valeur du point va augmenter comme le salaire moyen.
Ça a été dit par le Premier ministre, ce serait indexé sur la masse salariale.
Il faut que ce soit inscrit quelque part. Il faut que ce soit inscrit quelque part que le taux de rendement, les 5,5%, ne vont pas baisser de manière discrétionnaire. Il faut naturellement que le gouvernement annonce un grand plan pour les travaux pénibles, ce qu'on a déjà dit. Il faut aussi... C'est peut-être, ça n'a pas été dit dans le débat, il faut dire clairement que les avantages pour enfants seront réservés aux femmes et seront forfaitaires. Il faut 100 euros par enfant élevé et non pas le système proposé par Delevoye où on choisirait entre l'homme et la femme de sorte que les gens auraient à choisir entre un supplément important pour l'homme ou un supplément minable pour la femme. Donc
pourquoi vous voulez que ce soit réservé aux mères et interdit aux pères comme c'est proposé?
Parce que dans le projet de Delevoye, on dit au couple, vous choisissez soit le père, soit la mère. Oui. Mais les pères qui ont élevé trois enfants, ils n'ont aucun impact sur leur carrière. Au contraire, ça booste les carrières. Mmh. Les femmes qui ont élevé 3 enfants, ça a un impact très fort sur leur carrière. Il est totalement injuste de dire on va donner la majoration au père, et avec un système dans lequel la majoration est proportionnelle, les couples sont incités à donner au père. Donc il faut changer ça et dire c'est 100 euros par enfant élevé, et sauf cas particulier du père qui effectivement... On s'est donné à la mère. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je répète, le principal, c'est la garantie, et avec, éventuellement dire clairement, le système sera géré de manière à ce que le taux de remplacement reste de l'ordre de 75% pour les salaires normaux et de 85% au niveau du SMIC. Et d'autre part, on prend en compte, branche par branche, les métiers pénibles.
Olivier Babeau, ce que vient d'esquisser Henri Sterlignac, on serait assez loin du tout le monde sous la même toise, système universel, ce serait un système parcellaire avec plein de particularités, de spécificités, non ?
Oui, on pouvait s'y attendre, mais c'est déjà pas mal par rapport au système actuel, avec l'idée que vous avez aujourd'hui des taux de remplacement qui sont à peu près 50% dans le privé, 60% dans le public, plus de 80% à la RATP, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et puis l'idée de, dans un cas, vous avez les 25 meilleures années, puis dans l'autre, les 6 derniers mois. C'est bien qu'on ait le même principe. Donc, il y a quand même l'avantage de cette réforme, c'est que ça va donner moins ce sentiment d'égalité. Mais évidemment qu'il va falloir spécifier. Alors, moi, je suis effectivement pour l'idée d'une retraite, d'une bonification en valeur absolue et pas en pourcentage, parce qu'évidemment, il y a une rationalité. Quand monsieur gagne plus que madame et que le pourcentage pour les enfants, il est en pourcent de votre retraite, c'est monsieur qui a intérêt, parce que ça veut dire que le couple va gagner plus, mais sauf s'il divorce, évidemment, à ce moment-là, c'est plus le couple qui gagne. Donc, vous avez effectivement une incitation qui est mauvaise. Je ne trouve pas absurde, en revanche, moi, que le père puisse aussi bénéficier du fait d'avoir eu des enfants, parce que je suis désolé, mais aujourd'hui, égalité des sexes aidant. Moi, je suis père de 3 enfants, je peux vous dire que je m'en occupe beaucoup, je n'ai pas du tout le sentiment de laisser les choses, et je trouve qu'il y a, si on ne peut pas faire l'égalité des sexes à moitié, soit on est vraiment égaux, soit on est moins égaux que les autres, mais à ce moment-là, il faut le dire. Et puis, il faut dire enfin que malheureusement, cette retraite, elle ne va pas régler le problème du fait que la retraite du public, c'est une retraite hors bilan aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comptabilisée, et c'est l'équivalent de la dette publique.
Expliquez-nous là.
En réalité, on ne sait pas comment on va payer la retraite des fonctionnaires, c'est parti de ce qu'on appelle...
Elle est inscrite dans la loi de finances.
La dette hors bilan, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas réellement comptabilisée, parce que l'État se dit, je ne vais pas cotiser pour moi-même. La deuxième idée, c'est que la dépendance, on ne sait toujours pas comment on va faire. Et puis, enfin, le taux de remplacement, malheureusement, il faut s'y résoudre, il va probablement baisser du fait de l'évolution démographique.
Taux de remplacement, c'est donc la part du salaire qu'on conserve, qu'on garde au moment de la retraite.
Exactement, pardon. Et donc, à la fin, il va falloir tout ce qu'on développe des formes de capitalisation. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec l'AGIRC et l'ARCO, parce que c'est des retraites par points, et puis c'est des formes de capitalisation.
Non, tout ça est tout à fait contestable. Il n'y a aucune raison de considérer que la retraite des fonctionnaires, ça serait une dette différente de celle de la retraite du privé. Il est tout à fait clair que la retraite, elle sera payée demain par la production de demain, avec les cotisations de demain. Donc, il n'y a pas de problème spécifique. Il n'y a aucune raison d'avoir un bilan spécifique pour les fonctionnaires. Deuxièmement, heureusement, nous savons qu'en 2025, la dette sociale sera remboursée et qu'à ce moment-là, nous disposerons de 24 milliards qui sont aujourd'hui consacrés chaque année à rembourser la dette sociale. Ces 24 milliards seront disponibles et il semble évident qu'il y a un emploi possible, c'est la dépendance. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour la dépendance. Demain, ça sera la CSG, la CRDS qui financeront la dépendance. Ce n'est pas dramatique. Et d'autre part, la capitalisation, ça voudrait dire qu'on dit aux jeunes de maintenant, d'un côté, naturellement, vous devez continuer à payer la retraite de vos parents. Et en plus, vous devez capitaliser pour vous. C'est-à-dire qu'il y aurait une génération qui paierait 2 fois. Et heureusement, ça ne se fera pas.
Merci Henri Sterlignac, économiste atterré. Merci beaucoup Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, d'avoir participé à cet échange éclairant, j'espère.
Europe 1.
Dans un instant, Pomme, 23 ans, chanteuse de talent, son 2e album. Elle vient nous le présenter dans un instant.
Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain.
C'est une voix douce avec des accents graves, un fil mélodique souvent habillé d'une simple guitare qui raconte des rêves, des désirs, des larmes et des failles.
Quand les lumières
Bonjour Pomme.
Bonjour.
Les Failles, c'est votre deuxième album. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ?
Je m'appelle Claire Paumet, j'ai 23 ans et j'œuvre sous le nom de Pomme. Voilà, je fais de la musique depuis toujours. Et
toujours, c'est quand ?
Bah, depuis que j'ai 5 ans, 6 ans quoi. C'est mon métier aussi depuis assez longtemps, depuis que j'ai 18, 19 ans quoi.
Et ça va rester votre métier ? Vous voulez consacrer votre vie à la musique ou
oui.
À la chanson ?
Oui, à moins que je devienne agricultrice à un moment donné parce que j'ai envie de planter des légumes aussi, mais sinon ça risque de rester mon métier.
Oui, j'ai vu ça dans la pochette, j'ai envie d'aller faire pousser des légumes au Québec.
Ouais, mais pour l'instant je suis plutôt sur la musique là.
Avec un spleen, une mélancolie qu'on n'entend pas souvent chez les gens de votre génération, on vient d'écouter un extrait de ce morceau, je préfère le noir, je veux pas sortir, je veux pas me découvrir, des failles.
Bah, c'est pas très à la mode de parler de ça, mais moi j'ai jamais réussi à écrire des chansons dansantes, donc voilà, je fais ce que j'arrive à faire, et même j'écoute de la pop et des chansons hyper joyeuses, et je sais pas, j'ai aucun talent pour les chansons joyeuses.
Je veux pas me découvrir, mais en chantant cela, et pas seulement cette chanson-là, vous découvrez.
C'est vrai. En fait, c'est étrange parce que c'est plus facile pour moi de parler de ces choses-là en musique que d'en parler avec mes amis ou même avec ma famille ou mes proches.
Ou avec des journalistes de radio. Ouais. Vous découvrez encore plus, Pomme, dans cette autre chanson grandiose.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois. L'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose.
Je veux un enfant dans le ventre depuis que je n'ai pas le droit, avec des amis qui me mentent en disant t'es comme les autres, et l'amour qui dit tu n'es pas comme les autres. Pomme, est-ce que vous avez envie d'expliquer ou est-ce que ça doit rester comme ça, une chanson ?
En fait, cette chanson-là, c'est assez spécial parce que je l'ai écrite, voilà, elle parle vraiment de quelque chose d'hyper intime et je pensais pas du tout qu'elle résonnerait chez les gens parce que pour moi, c'était la moins universelle de l'album et finalement, c'est celle dont les gens me parlent le plus. Donc j'étais hyper étonnée déjà au début et donc les gens qui m'en parlent, c'est toutes sortes de gens. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes hétérosexuelles, des personnes homosexuelles, il y a même des femmes célibataires, enfin... Et je m'y attendais pas du tout. Et en fait, à la base, elle parle de ma propre expérience qui est que j'ai pas de modèle de famille, par exemple, homoparentale ou même de famille monoparentale dans les médias ou dans la culture populaire. En grandissant, j'ai jamais vu ça. Et du coup, je me suis réveillée un jour à 20 ans en me disant « Bon, t'as toujours voulu un enfant, mais du coup, comment est-ce que tu vas faire ? Parce que t'as pas vraiment d'exemple. » Et finalement, je pense que cette chanson-là, elle parle aussi de, globalement, la complexité du désir de vouloir un enfant dans cette société pour plein de raisons, parce que c'est pas forcément évident et parfois on se dit est-ce que c'est un vrai désir, est-ce que c'est quelque chose d'imposé un peu, enfin surtout pour les femmes, j'ai l'impression que c'est une pression assez forte, enfin donc
c'est plus que compliqué parce ouais. Que les derniers mots de la chanson c'est cette vie n'existe pas.
Je dis la vie qu'on nous vend bien tracée, une vie comme ça n'existe pas parce que moi je me suis imaginé une vie qui est pas du tout ma vie actuelle et ça a été tout un processus de déconstruire ça, en fait.
Quelles sont vos inspirations musicales, Pomme ? Vous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez des choses pop ou dansantes, etc. Mais vos inspirations à vous pour produire ces chansons-là, à qui aimeriez-vous ressembler ou vous approcher ?
À personne, je crois. Albin de la Simone, avec qui j'ai travaillé pour cet album, m'a dit, une des premières fois qu'on s'est rencontré, quelque chose de très juste, de très sage, il m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de faire la musique que tu écoutes. Moi, je l'ai appliqué. En résidence d'écriture, j'ai décidé de rien écouter et de voir ce que j'allais écrire. Je faisais beaucoup d'écriture automatique, de tests et d'expériences. Et donc
c'est votre voix, c'est vraiment, c'est vous.
Je me suis inspirée de personne, en tout
c'est,
cas.
C'est vous.
Pas consciemment, mais oui, j'espère que c'est moi.
Un endroit pour écouter vos chansons ?
J'allais dire les toilettes, mais il y a peut-être un meilleur endroit. La forêt, la nuit, enfin la pénombre aussi. Ouais. J'ai fait une release party juste avant de sortir mon album où j'avais créé une pièce toute noire pour écouter mon album. Apparemment, ça marchait assez bien.
Moi, j'ai une suggestion, moi, pour au moins un de vos titres. Donc, une petite maison loin de la ville, peut-être dans la forêt, tiens, voilà, par exemple. La neige qui tombe derrière les carreaux, du feu dans la cheminée, et une jeune femme qui s'approche et attrape sa guitare.
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil.
Soleil, soleil. Ça vous va comme ambiance? Ça vous correspond?
J'adore. J'adore. Et d'ailleurs, je suis en train de fabriquer un mini festival de musique à Lyon que je vais programmer qui va s'appeler Soleil, soleil, du coup.
Vous aimez le soleil et
oui.
Écoutez les chansons qui donnent envie de soleil
oui.
Au milieu de la forêt.
Bah oui, c'est important.
Dans le froid de l'hiver.
C'est important le soleil.
Il y a pour finir dans votre album un ovni, vous allez nous expliquer. Ça s'appelle Chapelle. Ça pourrait avoir été enregistré dans une chapelle.
Ouais, ça l'est. Quand même, je suis pas une mytho, quoi. Je l'ai appelé Chapelle et je l'ai enregistré dans une chapelle. En fait, c'était dans la même optique que cette démarche de m'isoler et de composer et écrire sans me soucier de ce que pensent les autres. J'ai fait beaucoup d'improvisation vocale et cette chapelle, elle avait un son incroyable. C'est une toute petite chapelle grande comme le studio là. Et juste j'avais un enregistreur et je chantais quoi dans la chapelle. Et c'est tout ce que j'ai fait en fait. Et je trouve que ça conclut bien l'album. C'est assez solennel aussi et il y a tout cet héritage que j'ai aussi de religion et de messe et de chant chrétien.
Pomme, qui a 23 ans, parle d'héritage. Et... Deuxième album, Les Failles. Et trois concerts à la Cigale à venir, 27 janvier, 28 février et 9 avril. Mais vous m'avez dit que c'était complet.
Je crois qu'il doit rester peut-être 30 places pour le 9 avril.
Bon, dépêchez-vous.
Voilà.
Merci beaucoup, Pomme.
Merci beaucoup.
Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée par Julien Cottreau, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. À 9h10, dans quelques minutes après les infos de 10h, vous allez retrouver de grands rendez-vous avec Les Échos et CNews. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Votre invité ce matin.
Éric Woerth, président LR de la Commission des Finances. En 2010, il était ministre du Travail lorsque les Français défilaient contre les retraites.
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.